Donc cette nuit, il faudra faire gaffe aux ours parce qu'on est en bord de l'océan, comme sur une lisière, et il y aura beaucoup de phoques, et donc il doit y avoir pas mal d'ours. On mettra les pétards juste à côté, le fusil pas loin.
Bonne nuit, Rod.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. L'eau à la bouche de ce mois d'avril 2013 vous emmène au pôle Nord où presque grâce à l'aventure, l'initiative de Sébastien Roubinet et de Vincent Berthet, nous sommes aujourd'hui chez Sébastien sur le plateau du Larzac. Bonjour.
Bonjour.
Accompagné de Mathieu Télène, mon complice, pour présenter cette émission. Salut à toi Mathieu.
Bonjour, ben on vient de franchir avec succès, nous aussi on a fait nos petits défis, puisqu'aujourd'hui il va être question de défis en tout genre. Nous, on a fait un petit défi, on est venu jusqu'au Mas Rénal, sur le Larzac à travers vents et neiges.
Et le bateau, car on va parler aussi de bateau, est juste en bas de la maison où nous sommes et nous irons tout à l'heure le voir pour mieux nous présenter cet engin si particulier qui traversera glace et qui voguera donc sur les mers un périple de 3000 km de l'Alaska au Spitzberg. Alors tout d'abord, peut-être nous dire en quelques mots, en guise d'introduction, d'où est venue l'idée de ce nouveau voyage, car Sébastien Roubinet, vous avez déjà fait ce genre de périple.
Mais l'idée m'est venue après le passage du Nord-Ouest, donc en 2007, où j'ai fait Atlantique-Pacifique en passant au nord de l'Alaska et au nord du Canada, avec un bateau un petit peu plus grand de 7,50 m qui navigue sur l'eau et aussi sur la glace, mais qui était plutôt typé eau. Mais dans le Nord-Ouest, on a pu naviguer tout le temps sur l'eau, donc on était un peu frustrés. Donc je me suis dit, maintenant quoi faire? Pourquoi pas aller faire la traversée de l'océan Arctique dans la totalité, Alaska, Pôle Nord, Spitzberg.
Ça a déjà été fait ou pas?
Non, ça n'a jamais été fait. La traversée de l'océan Arctique n'a jamais été réussie sans assistance, que ce soit à pied ou en bateau. À pied, avec les changements climatiques, ça paraît plus du tout possible. Jusqu'à 2000-2002, c'était encore tentable, mais personne ne l'a réussi. Et donc maintenant, c'est une expédition pour des bateaux.
Mathieu.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre historique de marin ou bien de partant comme ça sur les expéditions?
Oui, j'ai commencé à 14 ans avec une traversée de l'Atlantique. Après, à 15 ans, j'en ai fait une deuxième. À 17 ans, j'étais dans les Antilles, il y avait un bateau qui partait dans le Pacifique, et bien, je suis parti dans le Pacifique. Après, j'ai refait toute une série de traversées. Et au bout de quelques années, j'ai fait plutôt de la course. Donc que ce soit en Formule 28 ou en Mini Transat ou sur les 60 pieds, donc sur plusieurs supports différents. En 2003, j'ai fait donc la Transat 650 à travers l'Atlantique sur les bateaux de 6,50 m en solitaire et en course. Et au retour de ça, j'ai voulu changer un petit peu, quitter un peu la course parce que sans sponsor ou avec très peu de sponsors, c'était dur. J'étais bien classé, mais souvent avec des casses matérielles à cause du manque d'argent. Et j'ai embarqué sur Tara, donc l'ancien bateau de Jean-Louis Etienne, pour une expédition au Groenland. Et j'ai préféré continuer en montant mes expéditions plutôt que participer aux expéditions d'autres personnes. Et là, en 2007, j'ai fait le passage du Nord-Ouest, donc avec Babouche, sans moteur, comme la nouvelle expédition, et sans assistance. Et en 2011, on est reparti pour le pôle Nord. Malheureusement, on a passé 47 jours sur la banquise, mais on a eu un problème de batterie qui nous a forcé à faire demi-tour. Et donc là, on repart pour la nouvelle expé.
Alors si vos bateaux ou cette série, en tout cas de navires que vous fabriquez, s'appellent tous et toutes babouches, c'est qu'en fait, elles ont bien des formes de babouches pour à la fois aller sur l'eau et sur la glace.
Oui, l'étrave, l'avant du bateau, remonte un peu comme dans des skis, sur des skis, et ça fait penser aux babouches, la chaussure. Et donc pendant la construction du premier bateau, les personnes qui venaient le voir au chantier l'appelaient Babouche, et c'est devenu son nom. Après, j'ai fait un deuxième bateau qui s'appelait T-Babouche, parce qu'il était un peu plus petit et on n'allait pas lui donner le même nom. Et là, le nouveau, les étraves remontent plus vraiment comme des babouches, donc c'est devenu Babouchka.
aujourd'hui. Donc il sera question de babouchka pour ce voyage au pôle Nord que vous préparez pour cet été.
Sébastien Robinet, vous êtes spécialisé sur l'océan Arctique. Est-ce qu'on peut présenter cet océan pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, un peu redonner des repères géographiques, parce que tout à l'heure tu parlais d'une traversée par le Nord-Ouest. Est-ce qu'on peut un peu essayer de resituer tout ça?
Alors l'océan Arctique, c'est au nord, l'Antarctique au sud. Contrairement à l'Antarctique, l'Antarctique c'est une grosse montagne recouverte de neige. L'Arctique c'est l'océan recouvert de glace. Cette glace fond pas mal l'été, se reforme complètement pendant l'hiver et se fissure dans tous les sens. C'est pas du tout de la glace lisse, c'est un chaos de glace. Et c'est entouré par différents pays. Il y a le Groenland d'un côté, le nord du Canada, le nord de l'Alaska et tout le nord de la Russie. Donc c'est la partie de mer qui est tout en haut de la planète.
Habité ou inhabité ?
Complètement inhabité. Il y a quelques personnes qui vont au printemps quand la glace est encore saine, parce que les avions et les hélicoptères peuvent atterrir à ce moment-là. Mais pendant l'été, il n'y a vraiment plus personne, à part les 3 ou 4 brise-glaces nucléaires qui sillonnent la zone à la recherche de pétrole, entre autres.
Et à qui appartient ce bout de glace ?
C'est des eaux internationales. Donc il y a une partie juste autour qui appartient aux pays proches, mais la partie centrale, c'est des eaux internationales, donc à tout le monde.
On le disait tout à l'heure en introduction, quand Adrien le disait, des milliers de kilomètres à pouvoir parcourir librement, puisque situé dans des eaux internationales. Quelques habitants, si on parcourt rapidement le livre Babouche, le passage du Nord-Ouest à la voile pure, qui retrace le voyage initié en 2007, on s'aperçoit qu'il y a quelques ours, quelques poissons, mais voilà, pas grand monde. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce voyage de 2007, ou peut-être même un peu avant, sur l'expérience avec Jean-Louis Etienne, pour un peu caractériser l'ambiance qui se crée dans le Grand Nord?
Oui, déjà avant, c'était sur l'ancien bateau de Jean-Louis Etienne, mais qui n'appartient plus à Jean-Louis Etienne. Donc c'était un voyage au Groenland. On était avec des ornithologues qui faisaient du comptage d'oiseaux et des géologues. Et c'est des endroits complètement sauvages, c'est-à-dire par exemple sur la côte est du Groenland qui fait, ça doit faire à peu près 2000 km de long, il y a simplement 3 villages, dont un où ils sont 1500 à peu près, le sud du haut il y a 150 personnes, et un autre complètement à la pointe sud, donc il y a vraiment très très peu de villages, c'est très peu habité, ces endroits sauvages, on ne peut pas faire plus sauvage. Sur l'expédition de 2007, le dernier mois, on n'a croisé personne. On était en longeant les côtes tout le temps, donc s'il y avait eu des villages, on les aurait vus. Mais pendant un mois, on a navigué sans rencontrer aucune personne, à part des ours, des phoques, des caribous, quand on est le long de la terre, des caribous, des bœufs musqués. Donc les animaux, eux, ils sont là, ils sont bien présents et pas très peureux. Donc on peut les approcher, mais les hommes sont très très rares.
Donc le voyage de 2007, c'était le franchissement de l'océan Arctique par le Nord-Ouest. Quel était le point de départ? Comment est-ce que c'était initié, cette traversée? À partir de quel village, par exemple, vous aviez pu partir? Je suppose qu'il faut avoir, en termes de logistique, un point de départ qui soit assez costaud pour être le relais, puisque je suppose que tu étais également parti ici, peut-être de l'Hérault. Comment tout cela a débuté en 2007?
Donc en 2007, on est parti d'Anchorage, donc en Alaska, dans le sud de l'Alaska. On est parti d'Anchorage, on a fait tout le tour de l'Alaska. Alors là, au début, sur le sud de l'Alaska, ils allaient au Sien. Et quand on remonte sur le côté ouest de l'Alaska, il y a quelques villages. Donc on est remonté par là. Il y a beaucoup d'ours aussi, plus d'ours que d'habitants.
Juste là, c'était un itinéraire côtier en bateau.
Oui, c'est un itinéraire côtier, mais tout ce voyage qu'on a fait en 2007, c'était un itinéraire côtier. C'est-à-dire on longe les côtes de l'Alaska, tout le nord du Canada, arrivé au Groenland. Mais on est le 24e bateau à avoir réussi à le franchir et le seul bateau à l'avoir fait sans moteur. Donc c'était une première, on y allait, c'est côtier, mais c'est côtier dans les endroits très sauvages où on a des problèmes techniques, et bien même si la terre est proche, elle ne sert pas à grand chose.
des milliers de kilomètres sur un itinéraire côtier, trois villages, très peu de monde. Donc je suppose que quel était à peu près le rythme de ce voyage-là? C'était quoi? Chaque jour, vous partiez en mer pour le soir retrouver un point en terre, ou bien comment ça se déroulait?
Ça se déroulait en fonction de la météo, c'est-à-dire tant que les conditions étaient bonnes, on essayait d'avancer. Quand les conditions étaient moins bonnes, on se retrouvait bloqué des fois plusieurs jours. Et on prévoyait jamais le soir, on va s'arrêter à tel endroit, parce qu'on pouvait jamais savoir. S'il y a des jours, il y avait un bon vent, dans la journée, on faisait 150 000. Il y a des jours, il n'y avait pas de vent, on faisait 3 000, voire marche arrière. Donc on ne peut pas savoir le matin combien de milles on va parcourir. Et la météo est rarement très, très juste. Donc même en regardant la météo, c'était dur de savoir, de pouvoir envisager un arrêt ou en se disant ce soir on est à tel endroit.
Une vie très au jour le jour, finalement.
Sébastien Roubinet.
Oui, complètement. Il n'y a pas le choix, c'est la nature qui décide, en fait.
Vous étiez parti avec cette idée-là d'un changement de rythme à devoir s'adapter. Ce que tu as vécu, t'avais essayé de l'appréhender au mieux, ou est-ce que ça a été une surprise, une découverte de ce voyage-là, de devoir s'adapter au rythme de la nature, que ce soit les vents, les glaces, les courants, etc.?
Oui, quand on est en mer et sur un bateau sans moteur, il faut faire avec la nature. On n'a pas le choix. Quand on a un moteur, on allume le moteur, on accélère. On fait quand même par rapport à la nature un minimum, parce qu'au bout d'un moment, c'est elle qui décide. Quand il y a des grosses tempêtes, par exemple, ça bloque le bateau, même si on a un gros moteur ou si on a des bonnes voiles. Il y a un moment où le bateau se retrouve bloqué. Mais quand on est sans moteur, c'est la nature qui décide si on avance beaucoup ou pas.
Et durant ce voyage-là, la journée, c'était beaucoup de navigation, ou bien est-ce que vous aviez, entre guillemets, beaucoup de temps libre?
Non, pour arriver à faire le passage du Nord-Ouest en une seule année, surtout sans moteur, il faut, dès que les conditions sont bonnes, il faut avancer. Et donc ça pouvait être jour et nuit, il fait tout le temps jour quasiment, vu qu'on est, assez nord, au nord du cercle polaire, donc la plupart du temps il fait jour, mais dès qu'on peut avancer, on avance.
Et en 2007, il y avait un aspect déjà scientifique dans cette première expédition avec Babouche?
Non, il aurait dû avoir, mais en fait, on a été interdit par les autorités canadiennes. On devait faire des prélèvements d'eau tout le long du parcours pour un laboratoire canadien. Et les autorités canadiennes nous ont interdit de continuer à faire nos prélèvements.
Vous savez pourquoi?
Ils ont jugé que c'était du travail et qu'on n'avait pas le droit de travailler dans cette zone-là, alors qu'on n'était pas rémunéré pour faire ça. Mais bon, c'est comme ça.
Quand tout à l'heure, tu utilisais le terme « on » assez souvent, donc je suppose qu'il y avait toi-même et puis plusieurs coéquipiers, un ou plusieurs coéquipiers sur ce voyage?
En mer ou sur glace, et y compris à terre?
Oui, donc sur le bateau, on était tout le temps en deux. Et en fait, j'ai eu trois équipiers qui se sont relayés. Il y a Annelies qui a fait la première partie, et après, est rentré, s'est occupé de la logistique.
Annelies, votre compagne?
Oui. Après, il y a Eric qui a fait donc la deuxième partie, tout le nord de l'Alaska. Et Boris qui a fait la dernière partie, j'ai fait beaucoup de navigation et entre autres de la course avec Boris, donc il a fait la partie la plus technique où on s'est pris les plus gros coups de vent, ça commençait à être l'automne un peu la plus délicate, donc c'est Boris qui a fait la dernière partie.
Alors tout à l'heure tu disais qu'il y a eu très peu de traversées sur ce passage nord-ouest, ou du moins à la voile. Je suppose que vous êtes quand même parti avec des cartes, des instruments, des choses qui vous permettaient de vous repérer, de savoir où est-ce que vous étiez, quel danger vous pouviez avoir devant vous. Qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on est comme ça? Je suppose que c'est pas la même chose que de traverser l'Atlantique, où là, voilà, c'est à peu près très bien connu, on sait qu'est-ce qu'on va rencontrer là. Là, je suppose qu'il y a une part d'inconnu. Comment est-ce qu'on l'appréhende? Comment est-ce que vous avez réussi à vivre avec ça?
Pour les cartes, on en a quelques-unes, mais qui sont assez fausses. Il peut y avoir, du moins par exemple, quand on a une pointe qui est marquée sur la carte, la position peut être fausse de 3, 4, 5 milles, donc presque 10 kilomètres d'erreur. Donc c'est toujours à peu près les cartes. Il y a quasiment pas de sonde de fond, donc on ne sait pas s'il y a du fond, s'il n'y a pas de fond. Nous, on avait très peu de tirant d'eau, donc ce n'est pas un problème, mais le passage du Nord-Ouest est très très mal cartographié. Après, on a quand même des aides aussi avec les photos satellites. Et on sait par où il faut passer quand même. Même si les cartes sont fausses, on voit à quoi ressemble la côte et la cartographie générale.
Et une logistique à terre, vous receviez des informations de l'extérieur pour vous aider à passer le Nord-Ouest ?
On recevait des cartes des glaces, et quelques cartes des glaces, et surtout la météo.
Itinéraire côtier, ça veut dire un éloignement de combien des côtes ? Est-ce que vous les aviez toujours à vue, ou bien est-ce que des fois c'était des grands passages en mer pour, couper des courbes, etc.
Il y a eu deux traversées, une pas très très longue, mais qui a été très mouvementée dans la mer de Bering. Bristol Bay. Où là, on a eu, une quinzaine d'heures à peu près de traversée. Mais c'est un endroit où la mer devient tout de suite très formée. Le vent a été plus fort que prévu. Donc là, ça a été une traversée assez mouvementée. Mais pas très longue, mais bon, sans voir la terre pendant un petit moment. Et à la fin, pour rejoindre le Groenland, on a eu une traversée qu'on avait prévue sur 2 jours, et finalement qui a duré 5 jours, parce que le vent nous repoussait petit à petit vers le large, donc on descendait de plus en plus vers le sud du Groenland. Et donc ça a été 5 jours, et pendant ces 5 jours, on a été tout le temps mouillé, les températures étaient négatives. Donc il faisait quand même bien bien froid, on avait du mal à dormir, il commençait à y avoir de la nuit, on ne voyait pas la glace, c'était une traversée assez dure.
Les caractéristiques de Babouche, donc le bateau qui vous a permis de franchir le Nord-Ouest, 7,50 m sur 5, tirant d'eau de 1 m à 20 cm, tirant d'air 12,5 m, le poids total à vide 550 kg, poids en charge 1 tonne et surface de voile 55 mètres carrés au près, 120 mètres carrés au portant. Quelques mots sur les conditions de vie et physiques que vous avez vécues sur place.
Conditions de vie, on est dans un endroit tout le temps très humide. Donc dans les Aléoutiennes, on avait de la pluie presque en continu pendant un mois. On a eu quelques jours, mais très très peu de jours avec du beau temps, mais sinon beaucoup beaucoup de pluie.
Donc
tout le temps mouillé. Quand on rentre à l'intérieur, on est mouillé, on essaie de sécher, mais il n'y a pas de chauffage, donc ça sèche mal. Après, sur la deuxième partie, c'était du brouillard givrant, du froid, plus froid, mais plutôt du beau temps la plupart du temps, et des bonnes journées de brouillard givrant bien fraîches. Et la dernière partie, c'était un peu de neige, l'eau qui recommençait à geler. C'était un bon froid, un petit peu moins de brouillard que sur la deuxième partie, mais le froid qui commençait à être bien vif. Dans la traversée, on avait entre moins 5 et moins 8.
Dernière question, après on changera peut-être de thématique, mais quelques très bons souvenirs et puis quelques très grosses galères.
Sébastien Robinet.
Donc... En très bon souvenir, déjà l'accueil sur un petit peu tout le long, dès qu'on s'est arrêté dans des villages ou même des maisons isolées, on a tout de suite été accueillis. Souvent, on n'avait pas le temps de mouiller, qu'on était déjà invité à venir prendre le café, une douche. Et les gens là-haut disent tout le temps, quand on arrive chez eux, faites comme chez vous. Et après, ils présentent la maison. Par exemple, ils montrent l'endroit où il y a le café, ils montrent le frigo, ils montrent le canapé. Et si on a faim, il faut aller se servir dans le frigo. Eux, ils ne vont jamais nous servir, mais eux, ils se servent. Mais si on a faim, on se sert. Le café, c'est pareil. La douche, vu qu'à l'entrée, il nous a montré où était la douche, si on veut prendre une douche, on prend une douche. Donc l'accueil est vraiment très, très généreux. Donc ça, c'était le bon souvenir. Et puis tous les paysages, la rencontre avec les animaux et tout ça. En grosse galère, on a dématé, on a cassé le mât. En Alaska, après un mois d'expé, sur l'expédition qui a duré 4 mois. Donc au bout d'un mois, on a cassé le mât. Pareil, on a eu énormément de chance parce qu'on a réussi à rejoindre un village. Et là, ils nous ont ouvert un hangar où on pouvait chauffer pour pouvoir faire la réparation. Annelise, qui était en Corée, j'ai réussi à trouver du carbone et de la résine. Elle nous l'a envoyé par un petit avion qui fait la ligne là-bas. Et 4 jours après, je crois, 4 jours après, on a pu repartir, alors qu'on était sans mât, sinon 4 jours avant.
Témoignage de Sébastien Robinet, invité de l'émission L'eau à la bouche, proposée par Radio Pays d'Hérault, diffusée sur Radio Clapaz, Divergence FM à Montpellier, ou encore sur Radio Larzac. C'était donc votre expérience en 2007 pour le passage du Nord-Ouest. Vous préparez pour cet été 2013 la voie du pôle, 3000 km de l'Alaska au Spitzberg. Nous sommes chez vous sur le plateau du Larzac. Vous allez nous présenter votre bateau qui est juste en bas, que vous êtes en train de préparer pour cette nouvelle aventure.
Sur une plage de Bahia où je passe mes illusions, d'un coup je vois passer une fille qui me fait perdre la raison. Oh, Bahia toute babel, toute bon. Bahia une fille à chaque saison, pourtant j'y avais mis les formes. Je l'avais emmenée à la maison, je lui avais fait des trucs énormes, j'y avais composé une chanson. Oh, Bahia toute babel, toute bon. Bahia. Avant d'y caresser les hanches, je lui avais fait couler mon bain. Je lui avais dit mets-toi à l'aise, je lui avais caressé le sein. Oh, Bahia, tout va bien, tout bon. Oh, Bahia. Chaque saison, et c'est en sortant de la douche, quand elle s'est approchée de moi, que là j'ai vu un gros truc louche lui pousser où il fallait pas. Oh, Bahia, tout pas bon, tout pas bien. Bahia, il lui dit y'a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoigné des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Oh, Bahia, tout va bien, tout bon. Bahia, finalement c'était très bon. Sur une plage de Bahia, si tu passes tes illusions, de coup tu vois passer une fille, assure-toi que c'est pas un garçon. Et si ma foi c'est dans tes cordes, et puis qu'au fond ça te convient, que les choses soient pas toujours en ordre, n'hésite pas à te faire du bien. Ah, Bahia, ah, Bahia, un garçon à chaque saison.
De retour dans l'émission L'eau à la bouche avec Sébastien Roubinet, nous sommes devant son bateau, pour l'instant à sec, et il prépare un voyage au pôle Nord pour cet été. Alors Sébastien Roubinet, tout d'abord, tentez de décrire à la radio, dans les grandes lignes, à quoi ressemble Babouchka, le nom de cet engin.
Mais déjà pour la taille, c'est un bateau qui fait 6 mètres de long, 6 mètres de long, 2 mètres 40 de large. Très léger, il fait 140 kilos. Donc, il est très toilé parce que là-haut, en fait, en Arctique, la plupart du temps, il y a très très peu de vent. Donc, il faut beaucoup de toile pour arriver à avancer. Et il a des coques qui sont faites pour pouvoir glisser sur la neige et sur la glace et sur l'eau. Donc, c'est des coques assez fines et surtout qui remontent à l'avant comme des skis pour arriver à monter sur la glace quand on arrive face au chaos.
Avec quel matériau vous l'avez construit pour qu'il puisse peser seulement 140 kg?
Donc la partie roof qui sert de poutre, l'habitabilité qui sert de poutre, ça s'est construit tout en carbone. Le gréement et tout ce qui ne prend pas de choc, c'est en carbone. Et les coques sont en inégra et basalte. L'inégra, c'est une nouvelle fibre qui vient juste de sortir au Canada et qui est un polypropylène polyéthylène, pardon, et mélangé avec du basalte, donc de la fibre de roche, ce qui nous permet d'être très, très résistant à l'impact, beaucoup plus résistant encore que le Kevlar, par exemple, qui est le plus connu pour ce genre d'utilisation.
Mathieu Tellen.
Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que là, je viens juste d'aller frapper sur la coque. Je m'attendais à avoir un matériau très dur et en fait, il est très souple. Alors du coup, ma question, c'est comment est-ce que cette matière-là arrive à résister au choc avec la glace, sur l'eau, etc.
Oui, justement, c'est grâce à cette souplesse que ça résiste. C'est-à-dire que c'est des coques, là, pour l'instant, elles ne sont pas gonflées. C'est pour ça qu'elles sont molles comme ça. Mais c'est des coques qu'on gonfle. Elles font 1 mm d'épaisseur, hein, le tissu fait 1 mm d'épaisseur, et elles sont gonflées, elles sont mises sous pression, et ce qui permet d'encaisser des gros chocs, comme un pneu par exemple, ou comme un bateau pneumatique, d'encaisser des gros chocs et reprendre sa forme par la suite. Si on avait voulu faire une coque rigide, de construction classique et rigide, le bateau ferait 250-300 kg. Et donc ça ne fonctionnerait plus, on n'arriverait plus à le tracter sur la glace, tandis qu'avec ce mode de construction, ben ça permet de pouvoir être très très léger et d'encaisser des très gros chocs.
Alors c'est un bateau tout en noir, vert foncé, et puis parsemé quand même de très belles étoiles, mais ça on en reviendra tout à l'heure au pourquoi de ces étoiles sur la coque de ce bateau. Babouchka fait suite déjà à plusieurs expériences, plusieurs prototypes. Tout à l'heure on a déjà commencé à évoquer un peu comment était venue l'idée de ce bateau. Lorsque l'on travaille comme ça à construire des prototypes, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'inconnu devant soi, on ne sait pas quoi. Vous allez me dire si on sait si ça va tenir ou ça ne va pas tenir. Après il y a l'expérience ou le dédématage qui, qui viennent ponctuer tout ça, mais comment est-ce que vous avez travaillé sur ce bateau-là en termes de conception, voilà, à la réalisation, en disant bon, il y a un objectif, c'est franchir le Grand Nord et puis quand même arriver à un succès. Donc il y a, je pense, des enjeux de solidité, de durabilité. Dessus, on voit qu'il y a des panneaux solaires, donc il y a aussi de la conception par rapport à l'énergie, comment on va gérer l'énergie à bord de ce bateau-là. Mais par exemple, sur les coques, on le disait, il y a du concept de char à voile ou bien de catamaran, donc de pouvoir se déplacer sur les glaces et sur l'eau. Comment est-ce que c'est réalisé ce travail-là? Est-ce que c'est un travail dans la tête d'imaginer bien des solutions un peu folles pour se dire il faut sortir des solutions classiques, changer, trouver autre chose? Comment est-ce que tu as abordé cette phase-là du projet?
Sébastien Robinet.
En fait, je suis parti, donc j'ai commencé ces tests en 2008, juste après le passage du Nord-Ouest. Le premier bateau que j'ai fait pour ça, du moins que j'ai. Le premier test que j'ai fait, c'était un Obicat 16, donc un petit catamaran de plage, sur lequel j'ai mis des skis de kilomètres lancés pour avoir des skis assez grands qui existaient dans le commerce. Et on a monté ça. Comme on a pu, avec en soudant toute une armature en fer, ce qui nous permettait de pouvoir réaliser un bateau rapidement et pouvoir faire nos premiers tests. Et on est allé aux Angles, dans les Pyrénées, en haut des pistes, sur le plateau au-dessus des pistes des Angles. Et on a fait nos premiers tests là-haut. On a pu voir un petit peu ce qui marchait bien, ce qui marchait pas. Et pour pas cher, on a fait les premiers tests. Après ça, j'ai construit un premier bateau, un premier prototype avec lequel on a fait des tests aussi aux Angles. Mais on est allé après pendant un mois à peu près au Canada, en baie d'Hudson, pour pouvoir faire d'autres tests. Ce bateau, pareil, c'était quand même un prototype construit assez rapidement pour pouvoir faire ces tests pour pas trop cher. Donc le bateau avec lequel on est parti l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, qui est Ibabouche. Donc là, c'était un prototype construit pareil, tout en Inegra et carbone, vraiment de manière d'être optimum, d'une construction optimum. On est parti, on a navigué pendant 47 jours sur la banquise avec ce bateau. Il y avait beaucoup de points positifs là, en majorité, du moins ça fonctionnait à part un problème de batterie, mais tout le reste fonctionnait bien, mais on avait moyen d'améliorer. Donc avec cette expérience, j'ai construit ce nouveau bateau. Donc c'est petit à petit, j'améliore. Et après, la conception, ben, ça vient de ma tête, hein, de ce que j'invente. Je teste, il y a certaines pièces que je calcule moi-même, mais que je fais calculer aussi par d'autres personnes en même temps, comme la fixation du mât et le mât qui est autoporteur. Il n'a pas de câble qui le tienne, donc il y a des très très gros efforts dedans. La conception électrique aussi, là c'est pas moi qui l'ai réalisé pour le nouveau bateau. Voilà, différentes choses comme ça que je fais ça avec d'autres personnes.
Il a été construit où, ou elle a été construit où, Babouchka?
À Balaruc, en fait, donc à côté de Sète, chez Tocatec, c'est Hervé Devic qui a construit. Bon, là, cette année, j'ai pas tout construit. D'habitude, je construis mes bateaux entièrement. Cette année, il y a une partie, la partie roof. J'avais pas le temps, j'étais au Groenland, donc j'ai pas pu la construire entièrement.
La durée de construction entre les premières poses de matériaux innovants, puisque vous utilisez des technologies innovantes, et puis là, ce qu'on voit, le résultat aujourd'hui, c'est-à-dire un bateau prêt à partir début avril vers son grand nord, quelle a été la durée de la construction ?
3 mois et demi à peu près.
On se fait une visite alors.
On risque pas de se perdre.
Allez, on va faire le tour du bateau. Donc tout à l'heure, je le tiens.
Ouais.
Tout à l'heure, j'expliquais les coques, donc les coques qui sont souples, et dessous, donc là, quand ça s'enfonce, quand on tape dessus, qu'elles ne sont pas gonflées pour l'instant, et dessus, il y a une bande de téflon qui nous permet de glisser. Là, on voit qu'elle est un petit peu usée parce qu'on a, frotté aussi sur les cailloux, donc on va la changer avant le départ. C'est une bande très très fine mais qui nous permet d'avoir une bonne glisse. Bon, au pire, on arrive à glisser même si on n'avait pas cette bande, mais ça optimise la glisse et donc nos efforts. Sinon, sur la partie avant, donc on a différentes voiles. On a un grand spi, donc une voile assez ronde qui est faite pour aller au portant, qui fait 37 mètres carrés. Et après, une plus petite qui fait 17 mètres carrés, une de 10 mètres carrés et la dernière qui fait 4 mètres carrés. Donc là, on passe de 36 à 4 mètres carrés selon les conditions météo. Et derrière, une grand voile qui fait 17 mètres carrés, donc ça fait très très toilé. Et tout ça, c'est mis sur un mât de 9 mètres. Donc c'est un petit mael de 9 mètres. Après, là, ce qu'on peut voir, on voit tout de suite dès qu'on arrive, c'est les panneaux solaires qui prennent une bonne surface sur le roof, qui nous permet d'avoir 300 watts de débit au maximum. Tout ça permet de charger les batteries à l'intérieur, qui sont des batteries lithium-fer, ce qui permet d'avoir des batteries légères et qui résistent bien au choc, vu que c'était notre point faible de la précédente expédition, c'est les batteries qui ont lâché. On avait l'énergie, mais on ne pouvait pas l'utiliser à cause des batteries qui étaient cassées. Sur l'arrière, la dernière fois, on avait une plateforme, on n'avait pas de plateforme rigide, au contraire, justement. On avait un trampoline, et ça fait qu'on avait la plupart du temps les pieds mouillés. Et au bout de 47 jours, quand on est rentré, on avait tous les deux les pieds, les orteils gelés. Rodolphe, lui, il a mis 3 mois à reprendre la sensibilité. Moi, j'ai mis 1 mois et demi. Rodolphe a perdu des ongles. Bon, ça repousse après, mais il a perdu ses ongles d'orteils. Donc voilà, cette fois on a fait une plateforme rigide, c'est un tout petit peu plus lourd, on doit passer 2-3 kilos de plus, mais par contre on aura les pieds au sec et on va garder nos pieds. Voilà. Sur la glace, le bateau se dirige avec les safrans, donc les gouvernails, comme sur l'eau. En bas des gouvernails, il y a une lame en titane qui nous permet de diriger sur la glace.
Et ça réagit bien ?
Ça réagit moins bien que sur l'eau. Il faut quand même jouer en même temps avec les voiles, c'est-à-dire choquer, border les voiles en fonction de ce qu'on veut que le bateau fasse. On choque la grand voile quand il veut qu'il abatte, qu'il descende dans le vent, et on la borde quand on veut qu'il monte dans le vent. Mais entre les voiles et les safrans, on arrive à bien diriger sur la glace. On va faire un petit tour à l'intérieur.
On vous laisse monter à bord.
Allez. Je le tiens peut-être là. Donc à l'intérieur du bateau, donc ça fait à peu près 3 mètres carrés. Donc c'est pas bien grand. On a 2 couchettes, chacun de son côté a sa couchette. Et on va stocker tout le matériel, toute la nourriture, vu que c'est le maximum de poids. Ça fait 180 kg de nourriture au début, c'est de la nourriture lyophilisée. Et ce poids, on peut le passer d'un côté à l'autre pour ce qu'on appelle matosser sur les bateaux, pour pouvoir donner de la puissance au bateau ou l'aider à lever une coque plus facilement quand on est dans des endroits chaotiques. Ça peut être intéressant de lever une coque pour arriver à se faufiler mieux dans les blocs de glace. À l'intérieur, il n'y a pas énormément de choses. Il y a 2 batteries, il y a un petit tableau électrique avec les régulateurs pour le panneau solaire. Et il y a une centrale de navigation qui normalement sert pour les bateaux de course, mais là on l'a customisé pour pouvoir l'utiliser pour le matériel scientifique. C'est-à-dire dans les coques, on a un radar qui sert, du moins un sondeur à glace qui nous sert à mesurer l'épaisseur de la glace en continu. Et toutes ces informations sont enregistrées sur une centrale spéciale, spécialement améliorée et étudiée pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur ? Pas grand chose en fait, c'est à peu près tout. Voilà, que je peux...
Non, on voit un univers très spartiate, là je vois pas de barreur automatique, je vois pas de grand confort. Lorsqu'on voilà, on envisage de, comme ça, de parcourir des milliers de kilomètres dans ce qui, moi, en fait, le parallèle que j'ai envie de faire, c'est que ça ressemble à une voiture de rallye, mais version mer et version glace. Il y a beaucoup de tubes.
Et sans moteur.
Beaucoup de tubes de chaque côté, et voilà, des renforts un peu partout. On voit que c'est optimisé pour être à la fois le plus résistant par rapport au contexte que vous allez devoir affronter, mais aussi le plus léger. On voit qu'il y a voilà, un souci du détail, vraiment c'est du prototype, c'est vrai, très très prototype. Comment est-ce qu'on envisage voilà, la vie à bord de ce bateau-là ? Est-ce que il va falloir chacun apprendre à partager, accepter l'autre, se dire qu'il y aura des grosses galères ? Voilà, je parle, ne serait-ce que sur le terme de la sécurité, des conditions entre guillemets sanitaires, de tout ce qui est hygiène, tout ça, comment est-ce que vous travaillez ces aspects-là ? Parce que là, ça ressemble beaucoup à un défi très sportif d'expéditeur fou qui part, voilà, voilà. Mais je pense qu'après, il y a aussi la réalité de se dire, il va falloir arriver à vivre sur ce bateau-là.
Oui, par rapport à justement de vivre ensemble, c'est marrant parce qu'on a chacun son côté, même si c'est tout petit, mais on a chacun son côté à l'intérieur du bateau. Et la dernière fois, le roof, la partie habitable, était un tout petit peu plus haute pour pouvoir être assis au milieu. Mais là, ce coup-ci, je l'ai rabaissé parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout de quelques jours, dès qu'on rentrait, chacun automatiquement partait de son côté. C'était juste, on avait notre périmètre quelque part. Et donc, chacun a tendance à avoir son côté, mais du moins, Vincent se connaît, on commence à bien se connaître. Et lui, il a aussi, du moins, on a tous les deux l'habitude des expéditions. On a déjà fait deux petits voyages ensemble, un dans le sud, en Patagonie, et l'autre l'hiver dernier, du moins le printemps dernier, au Canada. On se connaît depuis un moment, là, on vient de passer encore un mois de tests ensemble, tout ça. Donc, on a l'habitude des expéditions, on se connaît bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison d'avoir de soucis entre nous, ça, c'est sûr que ça va bien couler.
Quelles sont les conditions de sécurité requises pour votre expédition ?
On peut pas compter sur l'extérieur. C'est-à-dire que si on avait un vrai problème et qu'on demande des secours, il faut compter 15 jours, 3 semaines pour se faire récupérer. Donc on ne peut pas compter sur l'aide extérieure. Donc il faut tout le temps faire attention à nous, de ne pas se blesser, de ne pas... Voilà, pas prendre de risques. Des risques automatiquement, quand on va dans des endroits comme ça, on en prend. Mais il faut les gérer au maximum. Même s'il y a un passage qui peut être plus long, mais plus sûr, et bien on choisit le passage le plus sûr dans tous les cas.
J'avais une dernière question. Ce bateau est hors norme, hors type, en plein de points. On voit qu'il y a des matériaux innovants partout. On voit quand même quelques éléments de bateaux voiliers par-ci et là plus habituels. J'en viens même jusqu'à la porte. La porte n'a rien de commun avec un hublot ou une porte, je pense, d'un bateau plus habituel. Est-ce que cela voudrait dire que ce type d'expédition n'aurait pas été envisageable il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, qu'aujourd'hui ça l'est parce qu'il y a de la recherche, de l'innovation, à la fois sur bien, voilà, la résistance des matériaux, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se comporter dans ces contextes aussi hors normes. Est-ce que voilà, tu as pu faire cette exposition ou tu l'envisages de la faire l'été prochain parce que, bien, à côté, il y a aussi un appui technique ou technologique plutôt qui n'existait pas il y a 10-20 ans.
Oui, c'est sûr. Du moins, il y a 10-20 ans, on aurait peut-être pu, mais en tout cas, il y a 30-40 ans, ça aurait pas été possible. Déjà parce que le carbone n'était pas utilisé comme ça. Les coques, on aurait pu les faire en Kevlar, c'est un tout petit peu moins solide, mais ça aurait pu le faire quand même. Mais effectivement, oui, Il y a 40 ans, c'était pas possible de faire un bateau comme ça et ça aurait pas été possible de faire cette expédition. Parce que pour que ça puisse fonctionner sur la glace, il faut être très très léger. Et pour être très léger, on a besoin de ces matériaux-là. Là, par exemple, on parlait de la porte. La charnière de la porte, c'est une charnière qui est pas métallique, mais en résine souple. Et ce qui nous permet d'avoir une charnière étanche et très très légère.
Un dernier mot, là, le bateau est pour l'instant à sec. Quand est-ce qu'il va retrouver son élément préféré naturel, l'eau ou la glace ?
D'ici le départ, on va peut-être naviguer une fois là, dans le coin. Mais sinon, le bateau part début avril en container jusqu'en Alaska. Il y a 2 mois et demi de voyage et début juillet, départ de l'expédition.
Sébastien Roubinet, invité de l'émission L'eau à la bouche, musique et on se retrouve après pour le dernier quart d'heure.
Quand je suis planqué dans mes montagnes, au soleil, au pays de Cocagne. Les jolies filles me passent sous le nez. Pourquoi donc veux-tu que j'aille bosser? Quand je suis couché dans mes montagnes, que les hanches dansent sous les pagnes. Toi tu voudrais que je sois matin. Je te remercie mais j'ai besoin de rien. Oh, au pays de Cocagne. Oh, tu es au bagne. Moi, au pays de Cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Quand je vais manger dans mes montagnes tous les bons produits de ta campagne. Des fois je pense à toi dans ta BM, en train de tamper Fredo, j'aime. Quand je vais me laver dans mes montagnes, que je butine les seins de ta femme, je vois pas pourquoi tu es vexé. En amour aussi faut partager. Oh, au pays de Cocagne, dire que tu es au bagne. Moi, au pays de Cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Quand je vais dormir dans mes montagnes, dans mes rêves je vais en Espagne, sous une petite forêt d'oliviers, j'aperçois une source et un figuier. Des fois je me demande à quoi tu rêves, je me dis qu'en songe tu dois faire grève. Tu dois insulter ton patron qui te fait travailler comme un con. Oh, au pays de Cocagne. Oh, dire que tu es au bagne. Moi, au pays de Cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne.
De retour au chaud, l'eau à la bouche, sous forme de reportage ce mois-ci, diffusé sur RPH, Radio Larzac, Radio Clapas et Divergence FM. Nous sommes sur le plateau du Larzac, au Mas Rénal, non loin du Quai Larche, chez Sébastien Roubinet, qui prépare une expédition en bateau au pôle Nord, Mathieu.
Alors vous serez deux à partir au pôle Nord, donc Sébastien Roubinet et puis Vincent Berthet. Deux fous qui, comme ça, tentaient l'aventure. Mais autour de vous, il y a aussi une mission scientifique, des partenaires scientifiques qui vous accompagnent, qui, eux, s'intéressent plutôt à la fonte des glaces, à l'évolution de l'Arctique face au changement climatique. Est-ce qu'on peut évoquer un peu les aspects scientifiques de cette mission ? Alors, tu le disais tout à l'heure, vous avez déjà de l'instrumentation à bord, mais toutes les mesures qui vont être faites, donc notamment peut-être un peu la météo ou la profondeur, les l'épaisseur des glaces. Tout cela, à quoi va-t-il pouvoir servir à l'avenir pour les chercheurs et scientifiques qui vous accompagnent? Je crois notamment savoir qu'il y a Hervé Le Goff, qui est ingénieur de recherche, chercheur au CNRS et qui s'intéresse beaucoup aux glaces, à l'évolution des glaces.
Là, on va faire donc une mesure de l'épaisseur de la banquise en continu. On a un sondeur à glace qui est dans une des coques, qui est pas très lourd, mais qui prend beaucoup de place, qui prend 4 mètres de long sur un bateau de 6 mètres. Donc, c'est assez impressionnant comme engin. Et ça mesure en continu l'épaisseur de la banquise parce que les satellites n'arrivent pas, du moins. Là, il y a un satellite qui a été envoyé pour mesurer l'épaisseur de la banquise, mais il a besoin d'étalonnage. Et pour l'instant, on n'a pas de données qui ressortent du satellite. Sans étalonnage, ils ne peuvent pas avoir de données fiables. D'autant plus que le satellite est à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Et quand il fait une erreur d'un centimètre, ça représente une erreur de 8 centimètres. Parce que lui, il mesure simplement la partie émergée de la glace. Et il y a 8 fois cette épaisseur sous l'eau. Donc c'est facile d'avoir des erreurs de mesure. Et d'autant plus que ils n'ont pas très très peu de données pendant l'été, étant donné que l'été, les avions et les hélicoptères ne peuvent pas atterrir sur la glace parce qu'elle est trop pourrie. Donc ils sont assez friands de données sur place pendant l'été. Donc ça, c'est la mesure principale. En plus de ça, on envoie une sonde jusqu'à moins de 100 mètres qui mesure la température et salinité de l'eau, une CTD. Donc à peu près tous les 100 km, on envoie cette sonde. On la relève à la main et ça permet d'avoir un profil de la salinité et température sous la glace. Et tous les soirs, on ramasse de l'eau, de la glace et des fois des algues, quand il y a des algues ou des petits animaux qu'on trouve sur la glace ou dans les lacs de fonte. On ramasse tout ça pour ramener aux scientifiques pour qu'ils étudient la pollution, les métaux lourds, entre autres, dans ces zones-là, qui sont censés être protégés de tout ça, mais en fait, on s'est rendu compte la dernière fois qu'on a retrouvé pas mal de traces de plomb mais entre autres, pas mal de traces de plomb sur la banquise.
Cette collaboration avec le CNRS et puis également aussi on peut citer je pense l'université d'Alberta au Canada, est-ce que c'est vous qui avez tenu à ce qui est cette composante scientifique dans ce voyage un peu fou ou bien ce sont eux qui sont venus vous chercher en entendant parler de ce projet?
Donc un peu les deux en fait. Moi j'ai monté l'expédition d'abord comme une expédition sportive, mais je me disais, à être là-bas, si ça peut servir à la science sans que ça soit trop lourd, c'est-à-dire que là, on leur a offert 20 kilos de matériel à bord, il ne fallait pas que ça soit trop lourd, parce que sinon, ce n'est plus possible pour nous de faire l'expédition. Et donc, j'aurais proposé. Et tout de suite, ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc pour l'épaisseur de la banquise, surtout, le premier truc, ça a été l'épaisseur de la banquise. Et petit à petit, ça s'est un petit peu étoffé avec donc la CTD, les échantillons de glace. Mais voilà, je l'aurais proposé, ils ont tout de suite adhéré.
Et cette idée de participer, peut-être de modeste manière, à des études qui sont menées sur le changement climatique et sur leurs effets immédiats dans le devenir de notre planète, est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour vous ou bien c'est uniquement un plus du projet? À titre personnel, par rapport à soit une philosophie de vie ou bien un engagement sur les missions qui ont déjà été menées.
Sébastien Roubinet.
Je trouve qu'à aller naviguer dans ces zones-là qui sont dures à étudier pour les scientifiques, c'est dommage de pas les aider autant qu'on peut. Et voilà, c'est comme ça. Et après, c'est sûr que quand on suit un petit peu ce qui se passe là-haut, quand on regarde les cartes des glaces et quand on se renseigne un petit peu sur l'état de la banquise, on est rapidement quand même assez choqué par le changement. Là, par exemple, ces temps-ci, les cartes des glaces, là, je suis presque tous les jours sur les cartes des glaces, il y a à peu près 2 mois d'avance par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, il y avait à peu près 15 jours d'avance par rapport aux années précédentes. Donc il y a un gros changement, surtout sur l'océan Arctique, ça va très très vite. Et si l'océan Arctique, pendant l'été, dégèle complètement, dans ces cas-là, le Groenland va accélérer encore beaucoup plus vite sa fonte. Et là, le niveau de la mer va monter assez rapidement et pas mal de côtes vont être touchées. Donc c'est quand même il y a des enjeux assez importants.
Visuellement, on se rend compte quand on est au pôle Nord de la pollution, de la fonte des glaces, ou il faut forcément des comparateurs via les satellites pour mesurer pollution et fonte des glaces?
Visuellement, c'est trompeur, parce qu'on peut dire, regardez toute l'eau qu'il y a, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Déjà, moi, je n'y étais pas il y a 20 ans, donc je ne peux pas comparer par rapport à il y a 20 ans. Et même d'un jour à l'autre, des fois, on se couche dans un endroit, il n'y a quasiment pas de glace, et puis ça s'est concentré pendant la nuit, parce que le vent, les courants nous ont ramené de la glace dans cette zone-là, et le lendemain, il y a de la glace partout. Ou le contraire, on est dans un endroit très très concentré avec vraiment beaucoup de glace et le lendemain matin il y a des grosses zones d'eau, donc visuellement on ne peut pas dire grand chose. Après, par rapport à la pollution, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est les glaces. Il y a de la glace qui a un an, il y en a qui en a jusqu'à 5 ans à peu près dans les zones où on est. Les plus vieilles glaces ont 5 ans, la glace qui a un an, elle est blanche, 2 ans elle commence à être un peu grise, et il y a des endroits la glace elle est noire. Alors, ce n'est pas que de la pollution humaine, hein, c'est aussi de la poussière qui vient avec les mauvais temps et tout ça. Mais dans les échantillons qu'on a ramenés de la précédente expédition, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait des endroits, il y avait des gros pics de pollution. Et en fait, quand on a regardé un peu plus précisément, les gros pics de pollution correspondaient aux endroits où la glace était la plus vieille. C'est-à-dire, nous, on se rappelait de tel endroit, tel style de glace. Et effectivement, ça, on arrive à vraiment dater la glace par rapport à la pollution qu'il y a dessus.
Vous dites la plus vieille glace à 5 ans. Il n'y a pas de glace millénaire au pôle Nord?
Ah non, au pôle Nord, ça se régénère petit à petit. Côté Groenland, je crois que ça peut aller jusqu'à 8 ans, peut-être 10 ans, quelques petits morceaux, mais c'est jamais très vieux.
On en vient à un dernier volet de ce voyage qui est bien l'accompagnement. On disait un voyage un peu fou, hors norme, un prototype, un bateau prototype, tout cela on l'imagine, ça coûte cher et donc il faut arriver à trouver des financements. Donc vous avez de nombreux partenaires, mais vous faites également appel à tout un chacun pour vous aider à partir dans cette aventure. Donc tout un chacun peut amener son étoile au pôle Nord.
Oui, donc c'est assez dur, en particulier là ces temps-ci, de trouver des sponsors, des gros sponsors. On en a trouvé des petits, mais pas assez gros. Donc là, on est un petit peu loin du budget nécessaire pour le départ de l'expédition. Le bateau va partir sûr, mais on risque d'être endetté.
Quel est le budget?
Le budget global, c'est 80 000, et là, il nous manque à peu près 30 000. Voilà. On a eu un mécène en fait qui nous a permis de construire le bateau, qui nous a donné 30 000 et ce qui nous a permis de lancer la construction du bateau. Voilà, et plus les partenaires techniques, c'est ce qui nous a permis d'aller jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a encore le transport pour amener le bateau là-bas qui nous coûte très cher. Après, nous, pour rejoindre le bateau, il nous manque encore une partie de l'équipement. Donc voilà, tout ça, ça s'additionne vite.
D'où l'idée des étoiles qui partent au pôle Nord.
Et donc on s'est dit, mais comment faire vu que les partenaires des grosses entreprises, on n'y arrive pas. Donc on a lancé... On a lancé votre étoile au pôle Nord, c'est-à-dire que toute personne qui a envie de faire un don et en même temps d'avoir son image, qui est un peu frileux mais qui a envie d'aller au pôle Nord, eh bien son étoile peut aller au pôle Nord. Et pour ça, le mieux c'est d'aller sur le site internet, donc sebroubinet.eu, et vous pouvez après choisir une étoile en fonction de vos envies et de votre budget.
Alors de manière très concrète, quand on dit choisir son étoile, je le disais tout à l'heure, le bateau est parsemé d'étoiles, ce sont des étoiles autocollantes qui sont un peu réparties sur l'ensemble de la coque, de toutes les couleurs, que ce soit du rouge, du violet, du rose, du jaune, du vert, enfin vous pouvez choisir, je suppose, votre couleur, vous pouvez choisir la taille de votre étoile qui varie en fonction de votre don, donc ça va de l'étoile blanche à 20 euros jusqu'à l'étoile sponsor la plus chère, mais aussi la plus... la plus encourageante pour ce projet-là. Il y a l'étoile polaire, l'étoile banquise, l'étoile givrée, enfin pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Si vous voulez voir Vincent et Sébastien partir l'été prochain sur ce pôle nord avec ce bateau Babouchka, eh bien envoyez leur vos dons. Vous allez sur le site internet, on le disait tout à l'heure, sebrobinet.eu. Voilà, vous choisissez votre étoile et puis comme ça, ça les aidera à pouvoir un peu se rassurer sur le devenir de ce projet. Te concernant personnellement, j'aurais aimé savoir, pour aller vers la fin de cet entretien, si tu te définissais plus comme un fou sportif, un explorateur du Grand Nord, voilà, entre les deux, entre quoi aussi, peut-être entre les deux, entre un marin aussi un peu hors norme qui monte des bateaux qui lui vont bien, mais pour des choses qui sont, voilà, aussi savoir combien il y a de fous autour de cette planète qui sont sur le même type de projet, qui ont envie de partir dans le Grand Nord avec des bateaux un peu hors norme et prototypes.
Ben, je suis un marin, je suis amoureux de ces régions et de la technique aussi, concevoir un bateau capable de naviguer dans ces endroits-là, ça fait partie du projet complètement. C'est pas juste aller là-haut, c'est aussi inventer, concevoir et réaliser.
Donc il y a cette envie du défi.
Oui, le défi mais d'aller dans des endroits où normalement on pense que c'est pas possible, et bien, mais c'est, je sais pas, ça attire. Hein.
On pense à la mort ou pas pour ce genre d'expédition ?
Pas du tout. Non.
Peut-être qu'il vaut mieux pas. Est-ce que c'est aussi une manière de mieux se connaître, de se mesurer à soi-même, de d'apprendre qui on est, ce type de voyage ?
Oui, mais c'est des endroits où on pense à la mort. En fait, quand on vu l'extérieur, ça fait peur, la banquise, c'est des régions qui font peur et tout ça. Mais plus on a l'habitude, la dernière fois, là, quand on a passé 47 jours sur la banquise, on se sentait chez nous. On n'était pas dans un milieu hostile, hein, c'était un endroit où voilà, on vivait là, et puis c'est tout. Même le froid, on arrive à se mettre dans la tête que, voilà, il fait froid, c'est comme ça, et il ne faut pas tout le temps se dire, eh bien, il fait froid, mais on est dans un milieu froid, c'est tout. On s'y habitue, on prend des risques aussi en traversant la rue, en prenant la voiture et en faisant une grande distance, et bien on prend des risques là, bien, on essaie de les calculer pour prendre le moins de risques possible, et je pense qu'on n'en prend pas trop.
Enfin, on pourra suivre l'expédition de Babouchka via internet ?
Oui, sur le site internet.
Au jour le jour ?
Au jour le jour, il y aura la position tous les jours et presque une photo par jour et un petit texte expliquant ce qui se passe à bord à ce moment-là.
Et si d'autres sponsors ou mécènes nous entendent, ils peuvent encore vous contacter ?
Oh oui, je pense, à mon avis, même quand on sera au Pôle Nord, il y en a qui pourront encore continuer à nous aider et on marquera leur nom dessus, sur le bateau, on dessinera leur logo nous-mêmes. Non mais c'est possible, ouais, jusqu'au dernier moment, je pense.
Un grand merci Sébastien Robinet pour cet entretien. Retour prévu sur la terre ferme et dans l'Hérault.
Courant septembre, ça serait bien si c'était début septembre, mais il y a plus de chances que ça soit fin septembre.
Et entre-temps, plus de 3000 km parcourus à travers l'océan glacial arctique en passant par le pôle Nord grâce à Babouchka, un catamaran qui permet à la fois de voguer sur les mers et de glisser sur les glaces. Vous partez avec Vincent Berthet. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je rappelle le site internet www.sebrobinet.eu. Mathieu.
Et on se donne rendez-vous le mois prochain, on sera peut-être pas au pôle Nord, quoi, on verra.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'est la fin de l'émission L'eau à la bouche, à bientôt, au revoir.
Au revoir.